bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. La bande originale avec Leïla Kadoboudali, Daniel Morin Sport,
oui, présent.
Albert Algou, Jérémy Crédville, Tanguy Pastureau sera là tout à l'heure et notre invité Zabou Breitman. Merci Zabou de trouver le temps de venir nous voir dans cette bande originale, même si c'est pas la première fois et j'espère pas la dernière, mais vous avez un emploi du temps extrêmement chargé, une actualité dense dans la mise en scène ou la réalisation, que ce soit avec les Hirondelles de Kaboul, formidable film que vous avez co-signé avec Elia Gobé-Mévelec, si je prononce bien.
Oui. Vous avez très bien prononcé.
Ne vous brûlez pas pendant que vous buvez votre thé.
J'ai bu un thé, je me suis brûlée en même temps que je pensais, vous avez bien prononcé.
Très bien. C'est dit, c'est bon, il a le théâtre encore à dire, donc j'ai le temps d'avaler ma gorgée.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Et il y a la dame de chez Maxime que nous avons eu la chance d'aller applaudir avec Leïla l'autre soir. Pièce de Georges Feydeau que vous mettez en scène avec Léa Drucker, Michel Esco, André Marcon, Éric Pratt, Christophe Paou et Anne Roger, entre autres, parce qu'il y a du monde, hein. Sur scène, il y a beaucoup de comédiens.
Une jolie troupe.
Au théâtre de la Porte Saint-Martin. Ouais, joli théâtre, troupe et belle folie. Belle folie, c'est dinguissime.
C'est merveilleux.
Ouais, c'est réussi.
On va continuer d'en
parler avec Zabou Breitman. Mais d'abord, avez-vous travaillé vos fiches?
Vous voulez un pronostic?
J'ai fait que ça.
Moi, je veux un pronostic. Joe pronostic. Quand Zabou était enfant, son papa lui disait souvent: je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas faire les mêmes trucs que
moi. Les garçons.
Ouais. Ah bah elle était plus rapide que toi là, Jérémy.
J'ai attendu poliment la fin de ta question.
J'y peux.
Moi, cette mauvaise
sous-entendue.
Petit taquet.
Ouais, bah, sous-entendu, elle a fait du woman rupting. Ouais, c'est ça.
Ouais. Bel esprit, Jérémy Crévé.
C'est vrai. Est-ce qu'il vous a poussé à tout apprendre, tout savoir, sans vous dire c'est pour les garçons ou pour les filles, dans son éducation, dans les valeurs qu'il vous a transmises?
Est-ce qu'il m'a poussé?
Ouais.
Ouais. Il m'a même un petit peu engueulé quand je lui disais: ouais, mais ça, c'est des trucs d'électricité, tout ça. Je sais pas trop. Tu vois, je peux pas, quoi, parce que je suis une fille.
Claude François était un homme.
Jérémy.
Du coup,
il n'aurait pas dû. Tu vois, il n'aurait pas dû.
Non.
J'aurais dû attendre à la fin d'une question.
Ouais, voilà. Et voilà. Et il me disait, en fait, il n'y a pas de limite. Tout ce qui est technique, tout, tu peux. Évidemment, peut-être, tu ne pourras pas soulever un gros piano ou je ne sais pas quoi. Mais le reste, tout, tu peux tout faire.
Oui, la limite du muscle ou de la force, mais qui va aussi aux hommes.
Oui.
Hein. N'importe quel homme ne peut pas soulever un piano.
Ça, je confirme.
Je crois qu'il n'y en a aucun qui peut soulever un piano tout
ça. Apportez-moi un
piano. Voilà. Tout est possible. Il me disait, tout est possible.
Votre doux et tendre papa, qui est dans les Hirondelles de Kaboul, puisque c'est la voix de la sagesse qui est dans le film.
Alors, je tenais à dire quelque chose, parce qu'en fait, on dit tout le temps mon papa, mais en fait, j'avais une maman à qui on avait interdit de tout. On avait tout interdit. On lui avait dit, tu peux pas faire ça, tu peux pas être comédienne, actrice, c'est pas possible, t'es au Québec. Elle l'a fait quand même, mais tu ne peux pas faire ça, t'as pas le droit, t'es une fille, t'as pas le droit de dire ci, t'as pas le droit de dire ça. Et en fait, elle regardait tout ça, cette éducation,
c'est une autre génération.
Mais elle
aussi,
était émerveillée par les possibilités que j'avais. Et elle me disait sans arrêt, t'as de la chance. Et ça m'énervait au plus haut point. Oui, mais toi, t'as de la chance. Et je me disais, mais elle m'énerve de me dire j'ai de la chance. Et je trouve aujourd'hui qu'elle n'est plus, qu'elle avait raison. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance, sinon je ne pourrais pas être libre et de me dire, bon, ben ça, je vais le faire. Voilà.
Est-ce que de la même manière que vous aviez proposé à votre papa de faire la voix du sage dans les Hirondelles de Kaboul, il y a un caméo quelque part de votre maman dans votre carrière déjà?
Oui, elle a joué dans Se souvenir des belles choses. Elle joue un personnage, bien sûr. Elle joue un personnage qui danse parce que ma mère adorait danser. Et elle m'a dit, d'ailleurs, elle était assez timide, c'est quelqu'un d'assez réservé. Elle m'a dit qu'au fond, jouer la comédie, c'était pas, elle aurait préféré ne pas devoir parler, mais vous savez, il y avait aussi la timidité des Québécois à l'époque, en plus qui venaient en France où il fallait pas avoir l'accent.
Sur l'accent, oui.
Et donc, elle était très mal à l'aise. Ouais, voilà. Ou alors, en tout cas, danser, maintenant.
Grâce à qui Zabou a-t-elle débuté au cinéma? Personnalité connue.
Belmondo.
Non.
Comédien, réalisateur?
Poiré.
Pas réalisateur en tout cas. Je pense qu'il a déjà été un peu comédien, mais il avait surtout un autre métier.
Ah, rien à voir avec le cinéma?
Un producteur?
Rien à voir avec le cinéma. Un chanteur?
Non. Enfin si, pardon, il a chanté.
Il a chanté, ouais, il a chanté. Mais c'était pas son métier.
Non.
Bernard Tapie.
Oui, il a chanté.
Jordi.
Oh là là,
non.
Là,
mais ça commence par la même lettre.
Ah,
Jean Gabin.
Non.
Non, pas dans le cinéma.
Il a chanté.
Jacques Chirac.
Non.
N'importe quel mot qui commence par J.
Ouais.
Ah oui.
J. C'était, je vais vous dire, c'est un animateur télé qui a chanté.
Guy Lux.
Non.
Qui a chanté. Julien
Lepers. Non. Avec un J, animateur télé qui a chanté.
J-tron.
Jacques
c'est son
Martin.
Prénom
ça ressemble à ça. Son... Oui, c'est un prénom.
Jacques Martin.
Non.
Chancel.
Non.
Bah
c'est,
Jacques.
C'est le même prénom. Oui.
C'est Jacques.
Jacques.
Mais Jacques qui
animateur
oui.
télé.
Ben voilà.
Jacques Sardou.
Ben non, Jackie.
Ah, Jackie.
T'as dit Jackie sans penser à Jackie.
Attends.
Mais deux fois. Ça passe.
T'as dit Jackie sans savoir que sans penser à Jackie de Tété Où.
Jackie du Club Dorothée.
Oui, non, mais non, je pensais à Tété Où, la chanson avec Dio.
Ouais. Mais oui. Et Jackie, alors, j'avais donc postulé pour être animatrice à Récréa 2, pour payer mes études, hein, parce que voilà, j'avais pas un rond. Et en vrai, je m'ennuyais quand même, vraiment. Dans les amphis, qu'est-ce que je m'ennuyais. Et puis j'avais envie de bosser. Et donc je passe une audition avec Jacqueline Joubert et j'ai cette audition et je présente des émissions et je rencontre Jackie et nous met en couple pour présenter. Et qu'est-ce que je l'adorais. Je l'adore. Il était formidable. Qu'est-ce qu'il était drôle. Et il me présente un de ses potes qui était Ramon Pipin de Au Bonheur des Dames ou groupe Odeur,
oui,
le groupe Odeur.
Oui.
Quel beau nom de groupe quand même.
Et qui avait fait Olé filles.
Et il me présente à eux qui faisaient la bande originale.
Ouais.
Vous avez vu, je fais une citation, ouais. Genre en même temps. La bande originale Elle voit des nains partout. Ouais. Le film d'après la pièce de théâtre du Café de la Gare. Voilà. Et donc, j'ai rencontré ces gens-là qui m'ont dit « Ah, mais il y a une audition pour jouer Blanche-Neige. » J'ai dit « Ah, ok. » Puisque, de toute façon... À tout, je dis oui, d'accord. Okay,
et vous, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que ces rencontres, toute la vie, votre vie, comme ça, ouais. A été faite de rencontres avec de pourquoi pas, ok, j'y vais.
Ah bah oui, mais là, yes, la dame woman. Chez Maxime, ça s'est fait exactement de la même
avec
manière.
Avec un pourquoi pas.
Oui, c'est Jean-Robert Charrier, le directeur du théâtre, qui m'a dit, une fois que je suis rentrée dans son bureau pour lui parler d'un autre truc, il me dit, mais pourquoi vous ne faites pas une mise en scène? Faites un truc pour ici. Ah d'accord, bah quoi, bah, je sais pas. Il me dit bah c'est bien Fédo. Ah ouais, c'est super Fédo. La dame de chez Maxime, d'accord. Je suis partie, c'était comme
c'est
ça.
C'est comme ça sur ce,
ouais,
c'est
voilà. Comme ce matin. Sur ce ton là.
Ce matin, je vous ai croisé à 10h30 dehors. J'ai dit vous pouvez pas venir à bande originale. Faut bon d'accord. j'ai un creux jusqu'à
13h. Je vous jure que c'est vrai.
Zabou Breitman dit je suis bordélique dans ma vie, mais dans le travail je suis
très organisé.
Tyrannique. Non.
Je suis encore plus bordélique.
Non.
Non. Je suis une sorte d'asset. Je suis une.
Autoritaire.
Je suis une psychopathe.
Alors.
Tyrannique.
Tyrannique.
Je suis un tyran.
Naguiesque.
Oui. Espèce de salaud.
Dictateur.
Non. Obsessionnel.
Obsessionnel.
Ouais, complètement. Mais complètement.
Quelle est l'obsession? L'obsession, c'est la perfection.
Ouais.
Vous avez une idée précise et vous y tenez?
Non, c'est pas l'idée précise. Elle se fabrique quand même. Il faut rester poreux aux acteurs qu'on a et aux situations qui peuvent arriver ou aux erreurs. Mais. Quand l'erreur doit être reproduite au théâtre régulièrement, il faut qu'elle soit parfaite. L'erreur doit être impeccable, comme dans Fédo. L'erreur est impeccable. Non, mais il y a un truc comme ça. On doit reproduire la vie, donc l'imperfection, donc l'erreur, à la perfection. Ce qui est très bizarre.
Est-ce qu'il y a de plus difficile?
Oh, je sais pas si... Mais en tout cas, je vois que je suis comme ça. Or, je suis tellement pas comme ça dans la vie, mais je note pas les trucs, c'est n'importe où, c'est le bordel à la maison, il y en a partout.
Mais il y a pas un moment où vous vous dites, ça me gâche la vie, justement, ça me freine dans mon élan et dans mon...
Laquelle partie?
Le côté bordélique, justement.
Si, ça m'entrave, ouais. Ça m'étouffe. Il y en a partout, c'est épouvantable. Je vais finir comme les vieilles avec des sacs poubelles dans tous les... Vous savez.
Oui, ouais.
Mais si, c'est vrai, je suis
avec
un limite,
chats.
Ça. Avec un chat mort dessous.
Et dans votre travail, si vous avez quelque chose à changer,
c'est
dans
bon,
votre
sens.
Pardon.
Dans votre travail, si vous avez quelque chose à changer, parce que vous êtes plutôt heureuse dans le travail,
j'adore
et puis surtout
ça.
Vu le résultat, nous de l'extérieur, on se dirait il y a rien à changer.
Non, il faut s'adapter à chaque aux acteurs. Il y a des acteurs ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Alors comme j'ai la chance de connaître par exemple Léa, Je vois très Léa Drucker, pardon. Oui, je vois bien que là, faut aller peut-être par là. Micha, il a pas du tout le même rythme. Anne Roger, elle a encore un autre rythme. André Marcon, je le connais pour avoir travaillé avec lui. Je vois où il, à peu près où il va. Il faut faire très très attention à ça. En revanche, là, ça s'est passé tout à l'heure. Il y a un comédien qui a changé un mouvement hier parce qu'il s'est dit tiens.
Je l'ai vu.
Et je lui ai dit, tu changes pas le mouvement. On peut en parler, mais. Quand on change un mouvement, on change quelque chose dans l'espace. On change quelque chose dans l'espace aussi du spectateur.
Alors, tout à l'heure, quand on cherchait la fin de la phrase sur le fait que vous êtes bordélique dans la vie, mais dans le travail, vous étiez, et quelqu'un a dit, je crois que c'est tyrannique. Bah, Albert dit tyrannique, et c'est une petite réputation que vous avez quand même, vous le savez.
C'est un peu tyrannique dans le...
C'est la bonne tyrannie.
Il n'y a pas de bonne tyrannie. Mais pour arriver à ce que tout soit impeccable... en 6 semaines avec 16 personnes sur un texte pendant un spectacle de 2 heures où il y a des...
Il faut pas qu'il y ait 16 personnes qui décident, quoi, en fait. Il faut qu'il y en ait qu'une qui décide.
Oui, et puis il y a des mouvements de machinerie complètement dingues qui font là que les cintriers, on se rend pas compte, mais c'est délirant le travail qui doit être fait. C'est d'une précision aussi diabolique. Donc, alors... C'est pas le mot tyrannique est pas juste parce que quand
enfin, vous avez fait de la prison quand même.
C'est vrai. Mais c'est pas pour tyrannie.
C'est vous qui avez hoché la tête. C'est vous qu'au moment de tyrannie vous avez hoché la tête.
Je voulais dire, il y a un peu de ça. En fait, il y a de ça quand c'est pas suivi. Si c'est suivi, si tout le monde est au taquet, ça marche tout seul. Eh ben oui, ça marche pas quand quand le truc est pas respecté.
Et sinon, comment ça se manifeste quand tout le monde ne suit pas le mouvement?
C'est une grève.
Il faut se demander d'abord qu'est-ce que j'ai fait qui fait que ça ne marche pas.
Oui, déjà.
Donc ça, c'est la première question. Quand même, le metteur en scène, si ça marche pas, c'est quand même un peu de son fait. Donc, est-ce que la communication est bien passée? Donc souvent, c'est un problème de communication.
Comme les professeurs à la rentrée des classes doivent, dans les premières heures ou, j'allais dire première journée, premières heures, affirmer leur autorité, asseoir cette autorité, un metteur en scène qui constitue une troupe comme ça de 16 comédiens, là aussi, dans les premières heures, se joue le rapport entre eux et vous.
Ben c'est déjà dans le choix des acteurs, c'est-à-dire que vous avez un choix d'acteurs. Il y a des énergies, il y a les tout jeunes qui sont dans le spectacle. Je les ai auditionnés, mais vraiment beaucoup, pas un petit peu, pas genre bon ben ça va. Non, c'est pas seulement ce qu'ils jouent, c'est ce qu'ils sont et c'est ce qu'ils seront, parce que
ce qu'ils peuvent apporter.
Et puis ce qu'ils seront dans 3 semaines, parce qu'un spectacle c'est dans 3 semaines aussi qu'il existe. C'est pas juste le jour de la première puis c'est bon. C'est solidifier suffisamment l'édifice pour qu'il tienne le coup tout le temps.
Ça veut dire qu'à chaque représentation, vous prenez des notes, il y a un débriefing avec les comédiens, il y a des choses à régler tout le temps.
Oui, pour pas que ça...
Mais à quel moment alors vous soupirez de plaisir en disant « ça y est, c'est bien ».
Mais non, mais c'est du spectacle vivant, l'art vivant, il bouge, et donc heureusement, sinon si c'était parfait, il serait mort. Donc non, ça doit continuer, il y aura toujours des petites choses, et puis après, on tend vers la représentation idéale, qu'on n'atteint pas, mais dont on se dit, elle est merveilleuse, et à la fin de la représentation idéale, vous vous dites... Zut, demain, ça sera moins bien.
Pour qualifier justement la personnalité de Zabou Breitman en tant que metteur en scène, elle a déclaré « J'accepte tout, mais pas... »
La critique.
Non.
L'incompétence.
Non.
Les félicitations.
Les excuses, le manque de travail.
Non.
La paresse.
Non.
La mauvaise foi.
Pardon ?
La drogue.
C'est un des 7 péchés.
La mauvaise foi.
L'alcool. On se rapproche.
Le mépris.
Non.
Le mensonge.
Ouais, je vais prendre
le premier mensonge.
Non, je prends le mensonge parce que c'est la tromperie, c'est qu'on me trompe.
Ah, ouais. Dépris,
ouais. Ben voilà, alors c'est là où je peux me mettre en colère. Si quelqu'un me dit, demain, il y aura ça. J'ai fait une grande confiance. Et c'est là où parfois je me mets en danger, c'est que je fais tellement confiance que je ne vais pas vérifier puisque la personne m'a dit c'est bon. Et moi, quand on me dit c'est bon, c'est bon. Mais si la personne dit oui, non, mais parce que. Ah. Alors, là, c'est.
Là, tu te fous de moi, quoi, c'est ça. Oui.
Non, pas la deuxième fois, mais la troisième, ouais. c'est épouvantable, c'est épouvantable. Là, moi, je sais qu'il y a 2-3 trucs demandés, et on dit, mais pourquoi c'est pas là? Et vous savez bien que c'est comme ça partout, même dans votre métier, c'est pareil. Et vous dites, pourquoi Pourquoi on le demande 10 fois? C'est incompréhensible. Et il y a des gens à qui vous le demandez une fois.
J'aime bien le regard de Leïla. C'est mon regard parce que je suis exactement mais en osmose totale avec ce que vient de dire Zabou. Mais
ouais,
non, mais j'assume totalement.
Mais
elle a raison.
C'est pas très grave.
Elle a raison.
Mais c'est juste.
Mais
si...
ça peut me rendre dingue.
Voilà, si la personne en face me dit c'est bon, je la crois. Mais si elle me redit c'est bon et qu'il y a rien, je commence à douter. Et là après, la personne se moque de moi et là je deviens enragée. Alors que...
Il y a une grosse différence, vous attendez la troisième fois, moi c'est la deuxième fois.
La première,
mais pour la troupe, en ce qui concerne la troupe, les acteurs là, il y a une énergie, et il y a une bonne volonté, et il y a surtout un talent, ils sont partants quoi, ils sont tellement merveilleux que les 16, d'avoir 16 personnes, c'est complètement dingue. Hein.
C'est rare au théâtre aujourd'hui.
16 merveilleux.
On dit pas non, c'est vrai.
Mais j'ai juste envie de tous les faire des petits bisous.
On va continuer de parler, mais justement à propos de la comédie, j'ai dit que vous réalisiez Les Hirondelles de Kaboul, que vous mettiez en scène la dame de chez Maxime. Mais pourquoi Zabou Breitman, en tant que comédienne, tourne moins?
Elle a moins le temps, elle aime
pas
les rôles.
Elle demande trop d'argent.
Non.
Elle ne veut plus. Non, c'est pas ça.
Non.
Pourquoi
elle est frustrée?
Parce qu'elle a dit oui, c'est bon, et en fait, c'était pas bon.
Non.
Parce que les rôles qu'on lui propose ne lui conviennent pas.
C'est
pas
assez plus grave que ça.
Plus grave que ça, parce qu'on ne l'appelle pas.
Exactement.
Ah bon,
enfin.
Mais sérieux.
J'ose pas le dire.
Mais écoutez, on avait dit que de. C'est pas grave.
Mais vous êtes
parce
sur liste rouge.
Je suis quand même heureuse de faire tout ce que je fais. Non, c'est pas ça.
En tout cas, on vous propose moins de rôles.
Oui, mais c'est compliqué. Je comprends très bien. C'est compliqué. Je fais tellement de trucs. Pourquoi je comprends et alors, on me perçoit moins comme actrice aussi.
Voilà,
c'est
moi qui
m'ont fait.
Qui a commencé? Est-ce que vous faites moins de trucs parce qu'on vous propose moins de rôles ou parce que vous faites beaucoup de mise en scène? On dit, bon, elle va pas être libre, donc on va même pas lui demander. Qui de la fée de la poule?
Oui.
Ah bah oui.
C'est une des questions les plus brèves qu'ait jamais posé Nagui.
On aurait cru une sorte d'élève en difficulté en classe. Ah bah c'est trop mignon.
Nagui embrasse Zabou.
Il se lève pour l'embrasser.
Vous avez ressemblé tout d'un coup Zabou à une élève en classe en difficulté et qui fait
oui.
Oui. Et même parce qu'il y avait que oui ou non. C'est ça, c'est pile ça en fait. C'est ça. C'est et il n'y a pas. Non, on ne peut pas dire, on ne me propose pas de rôle. Je ne me mets pas dans la position non plus, en tout bien tout honneur. Hein,
D'être désiré.
Non, je veux dire, c'est compliqué. Il faut qu'ils aient un imaginaire qui marche bien. Il faut. C'est pas.
Ça vous embête?
Ouais, mais en vrai, je ne peux pas être partout et tout faire. Et je trouve, en fait, j'aime tellement les acteurs aussi. Mmh. que j'aime tellement, tellement les regarder que du coup, je me mets un petit peu en arrière, quoi.
En fait, vous aimeriez bien qu'on vous propose pour répondre « J'aurais adoré, mais j'ai pas le temps ».
Voilà.
vous avez mis en scène le système Ribadier, la comédie française. Fédo avec maintenant la dame de chez Maxime au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Votre vision de ces pièces et la folie que vous y mettez, parce que c'est quelque chose de tellement barré. Mmh. Sincèrement, quand je suis arrivé devant le théâtre, je me suis dit, j'ai déjà vu La Dame de chez Maxime, une fois dans ma vie, en tout cas, même si j'avais plus très bien l'histoire en tête. Je viens au théâtre avec appétit, mais je me prends une claque, parce que c'est du Fédo, mais c'est plus du Fédo, quoi. C'est du Zabou Breitman. On est dans un univers qui est peut-être d'ailleurs proche de ce que Fédo donnait dans ses didascalies, je sais pas, mais...
Mais mon père était un dingue de Fédo, et donc
j'avais sans arrêt. Vous avez grandi avec ça?
Ah bah complètement. J'avais sans Fédo, Courteline, j'avais Charles Cros. Il y avait toujours. Il est né. Je me suis aperçue là qu'il est né l'année de la mort de Fédo. Il était né en 21, mon petit papa. Et tout le temps à la maison, il y avait cette espèce d'humour là qui. Cet humour-là, il est difficile parce qu'il est à plein de degrés différents. Il a plein de niveaux de lecture quand même, hein, Fédo. Donc, le bon mot pour le bon mot. Juste pour le plaisir de faire une... Mais même à des moments compliqués. Et je me souviens d'avoir regardé mon père avec dans les yeux, non, s'il te plaît. Parce que je sentais bien que, de toute façon, il avait envie de c'était une, voilà, il y avait une perche tendue, il disait, bah oui, mais bon, alors, voilà. Et je pense que cet univers-là, il est, je le comprends, je l'aime, mais je l'aime tellement que les didascalies de Feydeau, je les aime autant que la pièce. Donc, quand on comprend que la didascalie, elle n'est pas faite forcément pour
mais
la didascalie.
Pardon, étant les indications de jeu que
voilà.
Et paraît-il, le Feydeau est très précis dans ses indications.
La moitié du si vous avez le bouquin là, la pièce, la moitié ce sont les indications de jeu.
C'est-à-dire le nombre de fois où une porte doit craquer, le nombre de fois où un mot est répété, le geste.
Ah non, mais l'endroit où l'acteur se trouve par rapport à l'autre.
Ah oui, donc c'est carrément.
Parce qu'il faisait les
physique.
Mises en scène.
Ouais.
Et parfois, ça ne sert à rien, c'est juste pour que le lecteur s'amuse en lisant un truc extrêmement drôle.
Et vous venez de prononcer un mot important, c'est comprendre tout d'un coup, parce que quand j'ai vu cette pièce, moi aussi, on connaît en effet grosso modo l'histoire, et c'est là où la notion de mise en scène prend toute son ampleur, parce que cette pièce-là...
Enfin, juste une petite parenthèse, l'histoire, c'est une espèce de hangover, enfin de...
C'est exactement ça. Mec qui se réveille, il ne se souvient plus de rien. Ouais.
Voilà, ça s'appelait comment d'ailleurs en français ?
Very Bad Trip,
merci.
Ouais. En français.
Very Bad Trip.
En France,
c'était hangover.
Très mauvais voyage.
Voilà.
Hangover en anglais, mais c'est...
C'est gueule de bois, hangover. Ouais. Ça veut dire, c'est la gueule à l'inéa. Hein.
Ouais.
La gueule de
il
bois.
A la gueule,
ça, il a la gueule, ils disent dans Feydeau. Ouais. Et ça, hangover, c'est une gueule de bois.
C'est le nom du médicament aussi qui s'achète pour lutter contre la gueule de bois.
Et ben voilà.
Et elle s'y connaît.
Mais oui, donc, visiblement, madame, on connaît un rayon.
Commercialisé au Brésil, si ça vous intéresse.
Je voulais juste repréciser, en tout cas, le cadre dans lequel ça se passe. Un monsieur se réveille après avoir fait une fête, et dans son lit, il y a la dame de chez Maxime, voilà. Évidemment, ensuite arrivent toutes les incompréhensions, les quiproquos,
les tentatives désespérées pour s'en sortir et pour pas avouer finalement devant sa femme qu'il a eu une petite aventure la nuit précédente. Mais et c'est vrai que tout d'un coup, on se dit.
Bon, attends, laisse-la poser sa question maintenant.
Oui, ce qui est vraiment important, c'est qu'on pourrait très bien lire cette pièce à la maison, en effet, avec les indications de Feydeau, qui est connu pour être un petit peu contrôle fric, quoi. Sur la direction qu'il veut vraiment donner au futur metteur en scène. Mais vous en faites quelque chose de dingue. C'est là où on voit que vous comprenez le texte, que vous comprenez l'humour, que vous êtes vraiment au diapason avec l'auteur. Mais c'est rempli...
En modernisant aussi tout, parce qu'on a vu dans le jeu, par exemple, de Michel Esco, c'est peut-être votre indication, on a revu, c'est un copain qui nous a fait penser à Kramer dans la série
Seinfeld.
C'est-à-dire dans son jeu, dans sa posture...
Ouais.
Dans sa coiffure à la désirless, il y a un côté...
Cosmo Kramer.
Exactement.
Mais au-delà de ça, pour revenir au texte, on pourrait très bien lire deux répliques, et selon le metteur en scène, ça ne donne pas du tout le même résultat.
Ouais, parce qu'il y a des cons. Hein.
Non, mais c'est important de le souligner, parce que souvent au théâtre, moi je peux avoir assisté à des pièces et avoir vu des mises en scène en me disant... Je sais pas où est la mise en scène. Je sais pas où est la scéno. Je ne sais pas. Voilà, c'est même des termes à la limite que les gens ne vont pas identifier.
Ouais.
On se dit que le metteur en scène, c'est un peu le sorte de grand gourou qui s'occupe un peu de tout le monde. Là, on accède vraiment à la notion de mise en scène avec, on sent vraiment tout le boulot, l'invention. Il y a des scènes à pleurer de rire, une scène de combat, notamment.
Enfin, tous les enfants ont fait ça.
Mais je vous imagine, en plus, en train de répéter, en train de rire et en train de pousser. Parce qu'en plus, vous n'y allez pas au frein à main, c'est-à-dire que vous commencez pas juste en disant bon on va en faire 10 secondes, non, ça dure. Et c'est là qu'on se dit elle est complètement dingue et elle est complètement géniale.
C'est
merveilleux.
Jusqu'au casting aussi, parce que j'imagine que ce n'est pas naïf. Imaginez deux comédiens coiffés donc comme Désirless en voyage, c'est-à-dire qui ont 20 cm de cheveux au-dessus de la tête.
Ça fait 50.
Et donc les
perruques de Cécile Kretschmark.
Alors voilà,
excellente.
L'épouse légitime de Micha.
Madame Petitbon.
Qui donc, même avec 20 cm de cheveux, les cheveux 40. Arrivent à peine au menton de Michel Esco. Et cet effet-là de leur physique, de la disproportion entre la tige, la longue tige de Michel Esco et elle, c'est tellement drôle. Mais ça c'est déjà dans le casting, vous décidez d'avoir cet effet comique.
Alors, c'est plus.
Vous vous rendez compte après, vous jouez là-dessus ou
Non. Ouais. C'est voulu, mais c'est comme plutôt des instruments de musique. Donc je ne cherche pas le comique, mais je cherche la résonance musicale. Parce que c'est comme des instruments de musique. Il y a un petit violon, il y a une contrebasse, et ils ne jouent pas à la même vitesse, ils ne jouent pas de la même manière. Donc c'est plus un effet humain. en fait. Mmh. C'est plus... Parce qu'elle est assez bouleversante, hein. Elle est hilarante, mais parce qu'elle croit tellement. Bah,
c'est-à-dire qu'au au début... Au début
super mystique.
C'est la Vierge Marie.
Mais oui, mais elle est tellement... Elle est tellement droite, elle croit tellement... Elle est tellement maltraitée, cette pauvre petite dame. On la traite tellement mal. Mmh. Et ça me fait beaucoup rire, parce qu'elle est toute petite. Mmh. Elle est minuscule. Et... Quoi de plus drôle que de faire beaucoup de mal à quelqu'un d'extrêmement vulnérable sur scène? C'est-à-dire, c'est interdit, quoi.
Exemple, on lui propose d'aller faire 5 fois le tour, place de la Concorde, de l'obélisque.
Et elle le fait.
Et que la première personne à qui elle va parler va lui révéler quelque chose d'essentiel pour sa vie. Mais ça, je suis passée devant la Concorde ce matin, ben ça m'a fait marrer. Je me suis imaginé faire le tour et voir le premier qui me parle, surtout, qui allait me délivrer un message.
Surtout avec le symbole de l'obélisque sur la place de la Concorde. La Dame de chez Maxime, c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin, c'est, vous l'avez compris, extrêmement drôle, totalement barré, impossible à raconter, impossible à décrire, il faut le vivre, et vous allez adorer. Voici les révélations faites par François. François, maintenant, sur Sabou Breton.
Salut ! Salut les amis, salut Nagui, et zou bisous à vous. Attention, ce matin encore, il va y avoir de la révélation, de la dénonciation, de la circoncision, mais toujours pas d'érection. Dans une interview, à propos du système Ribadier dont on a parlé, de Fedeau, que tu avais merveilleusement mis en scène, tu avais dit, je te cite, 2 points, et j'ouvre tes guillemets. Ce que l'on croit n'est pas forcément ce que l'on voit. Ce que l'on voit n'est pas forcément ce que l'on croit. Vous avez suivi? Eh bien, comme le disait si bien Amel Bent quand elle visait l'une, c'est ma philosophie à moi, François, parce que mon job ici consiste à démystifier les apparences, à dénoncer les mensonges. Et comme tu le sais, Zabou, je ne t'apprends rien. Mais je le rappelle à tous mes amis complètement incultes ici présents. Le théâtre est un art du mensonge. Les lumières, les costumes, le maquillage, tout est factice, illusion, trompe-l'œil. Tiens, toi qui connais bien Tintin, cher Zabou, tu te souviens du capitaine Haddock au Musical Palace qui prend la porte d'un décor pour celle de la buvette? Dans quel album? Les sept...
Ah non, c'est dans les 7 bouts de cristal.
Les bingo. Et surtout, au théâtre, il y a les personnages. Et toi, Leïla, qui parle couramment latin, que tu as enseigné à la campagne, tu sais que le mot personnage vient de persona, qui veut dire masque. Ça fait du bien un peu d'étymologie. Je kiffe la sémantique. Un acteur cache donc sa vraie identité derrière son personnage. Bien sûr, Zabou, tu ne joues pas. Oui, derrière son masque, persona. Tu ne joues pas dans La Dame de chez Maxime. Tu ne prêtes pas ta belle voix aux hirondelles de Kaboul. Mais ça m'empêche pas de me demander. Mais non, d'une boule à facettes en cristal. Qui se cache derrière Zabou? Mon cher Nagui, je vais m'arrêter là, car je le sens. Je le pressens, je le ressens. Toi aussi, tu es Zabou. À bientôt. Merci.
Maggie, la bande originale.
Cette mise en scène, donc signée Zabou Breton, c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin, La Dame de chez Maxime. Est-ce qu'il y a déjà une vision d'une tournée? Est-ce que vous dites c'est pour X représentations? C'est jusqu'en décembre? Qu'est-ce qui se passe?
Alors c'est jusqu'en fin décembre. On sait qu'en janvier on va au théâtre Montansier à Versailles. Et ensuite, oui, ils sont en train de parler de la tournée.
Paris, Versailles, grosse tournée.
Ce qui me fait rire, c'est qu'on parle de Versailles dans la pièce et ça va être très très drôle à Versailles.
Évidemment. Versailles.
Voici Jérémy Crédville. C'est à toi, Jérémy.
Non, mais je termine le petit générique en jazz. Parce que je vous le disais, il y a 2 semaines, le jazz, c'est pratique pour annoncer des mauvaises nouvelles.
C'est vrai?
Souvent. Mais regarde. Cindy, de ma jolie, ton rendez-vous shiatsu de 19h sera cruel, car c'est avec Patrick Bruel, de Bay. Tu vois? Ce mardi, en tout cas, j'écoutais France Inter, l'émission La Terre au carré de Mathieu Vidard. L'homme porte bien son nom. Son émission, moins, car si la Terre était carrée, on tiendrait pas dessus. À cause des arêtes. Bref, malgré cette imprécision,
aux angles, tu veux dire, on tombait.
Ouais, exactement. Malgré cette imprécision, j'ai appris aux alentours de 14h10 dans un reportage intitulé « Comment vivre dans un monde qui fond ». Alors, ils auraient dû dire « Comment vivre dans un monde qui fait », mais bon, c'est pas grave. Qu'au Groenland était organisé des croisières de luxe pour aller voir fondre la banquise. Non. Et là, vous vous dites « Mais quelle vie de merde !» Il écoute France Inter à 14h10. Et plus sérieusement, rien que cet été, c'est vrai, une petite cinquantaine de paquebots se sont rendus à Nuuk. Nuuk, c'est la capitale du Groenland, rien à voir avec l'arrière de votre tête. Nuuk a donc vu passer 47 gros trucs de tôle remplis de trous de balles qui font coucou, hein, ça fait « d'où le bruit du bateau. À cause du froid, d'ailleurs, il parlait comme Julien Clerc.
Je me les pèle. Oh putain. Je me les pèle.
Voilà. Cadeau, Léa.
Ça
leur coûte 1000 dollars par jour de croisière. Franchement, 1000 dollars pour aller voir des icebergs. Alors qu'au marché, elles sont à 19 pièces. On n'en fait pas toute une salade. Bon, je fais dans le calembour maraîcher. Je pense qu'il y a un créneau à prendre. Vous savez ce que font une vieille carotte et une vieille tomate quand elles prennent le métro? Elle composte. J'ai raté mon créneau. Pardon. Économiquement parlant, ces croisières Groenland n'apportent rien à la population locale puisque les touristes mangent et dorment sur le bateau. Hein. Bah, 1000 dollars par jour, ils vont pas descendre bouffer du phoque. Oui. Et 1000 dollars la journée de croisière, ça fait quand même 900 euros. Hein. Pour beaucoup de gens, c'est un salaire mensuel. Pour Nagui, une chaussure. Eux, ils sont prêts à payer ça pour regarder un glaçon redevenir de l'eau. Prends un pastis, mon gars, tu verras la même chose. Ou même 300 pastis si t'as envie de claquer 900 euros par jour. Voilà, c'est ça. Au lieu de traverser un océan pour assister en direct à la mort de la planète, deviens Renault. M'asseoir sur le pont pour voir fondre la terre. Les paquebots, c'est vraiment pour les blaires. Je sais. Surtout qu'une des premières causes du réchauffement climatique qui fait disparaître la banquise, c'est les paquebots qui vont dans la banquise pour voir fondre la banquise. Ouais, non, mais c'est comme si t'entendais « Monsieur, au secours, je suis en train de me faire violer, faites quelque chose !»« Bien sûr, madame, j'attrape un préservatif du lubrifiant et j'arrive. » Voilà, c'est ça, mais c'est vrai. Sans paquebot, ça émet 10 fois plus de dioxyde de soufre que 260 millions de voitures. Donc le calcul est assez simple. Soit tu trouves un moyen d'aller Groenland en Twingo, soit tu vas pas au Groenland. Voilà. Bon alors, je fais la morale, hein, mais évidemment, je suis conscient de pas être tout blanc dans cette histoire. Moi aussi, je pollue le chauffage de la maison, l'essence de la voiture, le téléphone portable, l'haleine du matin. Ah, vous avez un pet de vache. Mais je pollue pour des activités plus ou moins nécessaires, comme me nourrir, me déplacer ou regarder la météo sur mon téléphone alors que j'ai qu'à ouvrir la fenêtre. Hein. Je pollue pas pour aller observer un ours polaire essayer de pas perdre l'équilibre sur un morceau de glace de plus en plus petit. Bienvenue dans Nordic Koh-Lanta. C'est maintenant à Balou d'affronter la terrible épreuve des poteaux. Alors, tombera pas. Ah bah tombera. Bon alors je sais, hein, Balou c'est pas un ours polaire, mais vous connaissez vous des noms d'ours polaires? Non, parce qu'il n'y en a pas, hein, ils sont presque morts tous. Donc à cause du réchauffement climatique, les ours doivent vivre sur 2 mètres carrés, hein, ils n'ont plus rien à bouffer. La seule espèce qui galère plus, bah, c'est les étudiants à Paris. En tout cas, comme je garde l'espoir que plus tard ma fille sera moins con que ma génération, tous les soirs je lui chante cette petite berceuse. Ainsi fond, 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 la petite banquise du Nord. Ainsi fond, 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 trois croisières, y a plus de glaçons.
Bravo, j'ai gagné.
La bulle originale, Nagui, sur France Inter.
Zabou, vous êtes, j'imagine, éco-friendly, mais est-ce que vous êtes militante? Est-ce que vous...
mes parents, dans les années 70, gueulaient déjà contre beaucoup, beaucoup de choses, et notamment contre tout ce qui attaquait la planète. Donc on le savait déjà. On aurait pu déjà commencer à faire des trucs. Et ils étaient très, très... ils étaient à donf. Hein. Et moi, je trouvais ça nul. Ils étaient, bah non, voilà, t'as vu ça, et ça, c'est pas possible. Ah non, ils étaient très attentifs.
Je sais pas si vous avez connu un monsieur qui s'appelait René Dumont, qui était
candidat aux élections
et qui faisait sa tournée pour la présidence à la République à vélo, en dénonçant donc ce qui se passait, la surconsommation et la pollution. Et quand on réécoute pour les élections de 74,
il était visionnaire, tout son programme aujourd'hui.
Ça m'a fait flipper, tout sur les bateaux.
Tout ce qu'il avait dit,
je l'ai vu, là, les pubs.
S'avère.
Mais il se faisait insulter, moquer par des gens très connus encore aujourd'hui.
Non, mais là, ça va aussi encore plus loin.
C'est Galilée, c'est du tourisme,
c'est le dark tourisme. Comme il y a des gens qui vont à Tchernobyl, là, on va au Groenland pour observer la chute collective.
Et ils veulent voir des ours polaires. C'est dans leur.
Il faut juste dire une chose, parce que j'entends de loin tous les haters qui nous écoutent en disant écoute, c'est bobo à la radio qui disent il faut faire quelque chose pour la planète. En tout cas, on ne donne pas spécialement de conseils à qui que ce soit, mais si chacun fait à son niveau quelque chose, juste un peu, oui, exactement, colibri, la petite goutte sur l'incendie, au moins on fait notre part. Après, personne ne sera totalement parfait, évidemment, on aura toujours un défaut. Déjà, nous, là, on est dans l'électricité, on consomme l'électricité
pour faire de la
radio. Mais,
on n'a plus de bouteilles en plastique.
Non, on essaie d'avoir des gourdes, pour boire.
Je ne me sentais pas visée.
Pas du tout, mais tu m'as montré la tienne.
Non, puis là, il y a beaucoup de messages politiques sur l'urgence climatique, mais ça fait depuis les années justement 70 qu'ils disent qu'il y a urgence climatique.
Eh non, mais là, ça devient... Bon. Parlons de la musique de Zabou Breitman, la musique de... Pardon,
je ne fais pas de musique.
La bande,
vous en avez pas encore.
Ça, c'est la BO, entre guillemets, de la pièce. Ça, c'est dans le...
Ah non. Alors, ça, c'était Ribadi. Oui.
Ah
ça,
oui,
c'est
pardon.
Ça, c'est... Alors, c'est presque la même.
Je pardon, mais ok.
Non, non, pas pardon. Non, non. C'est ça, c'est Shostakovich, c'est super. Elle a été réadaptée par Reinhard Wagner, qui est compositeur, qui a composé d'ailleurs le je vais faire un opéra avec lui, un conte musical sur Poil de Carotte, il a fait une musique absolument magnifique, j'adore ce type, et il joue la Duchesse. C'est lui qui joue la Duchesse au piano, c'est lui la Duchesse.
Ah,
ouais, c'est lui la Duchesse. Ouais, ouais. Comme la môme l'appelle Duchesse.
Et alors, expliquer que dans la pièce, il y a beaucoup d'hommes qui jouent des rôles de femmes.
C'est génial, tout, voilà. Tellement drôle.
Tellement drôle.
De toutes les femmes à moustache.
Ça, c'est vous qui l'avez décidé.
Bah oui. Oh.
Bah non, parce que c'est un.
Mais oui, mais parce que c'est comme des enfants qui auraient pris des costumes dans une malle, puis qui vite se seraient habillés. Et tout va bien, voilà.
Ah, c'est très drôle. 1980, qu'écoutez Zabou Breitman comme musique.
J'étais ska, moi. J'étais à fond.
One Step Beyond. Vous avez beaucoup dansé là-dessus?
Elle
danse encore.
Je danse encore là-dessus. J'étais beaucoup en Angleterre et je les adorais. J'adorais Madness, hein, j'adore l'Angleterre.
Specials.
Et j'adore le ska, j'adorais ça. J'ai trouvé ça vraiment formidable.
Dans les années 80, donc l'image, c'est l'Angleterre pour Zabou.
Et c'est Récré à deux aussi, qu'on a évoqué tout à l'heure avec Jackie. Et quand vous parliez à l'instant de la mise en scène avec des acteurs qui sont allés dans une malle chercher des vêtements et qui se sont déguisés, c'était un peu l'esprit aussi Récré à deux avec toute la troupe où on amenait chacun ses accessoires, c'est ça, on écrivait.
Ah bah c'était incroyable pour commencer à écrire. Moi je me suis mise à écrire des sketchs et là j'avais rencontré Ariane Carletti qui nous a quitté. Ça m'a fait vraiment ça m'a bouleversée. C'était une fille vraiment géniale. C'était une vraie comédienne en plus elle. Moi j'étais moins comédienne qu'elle et il y avait quand même une bande de gens qui venaient d'univers très très différents et avec qui on s'entendait extrêmement bien. C'était très très joyeux. Hein. Ça a été super et on écrivait. On était très libre, on pouvait.
C'était une bonne école.
Super école, bien sûr, formidable. Ouais, moi j'ai adoré.
1998, vous écoutiez.
S'il suffisait qu'on s'aime. S'il suffisait d'aimer.
Ah, Lara Fabian.
Non.
Rien qu'en aimant donner.
Vous entendez cette musique, vous avez quelles images?
Alors, j'ai quelles images? J'ai ma fille qui fait un playback complet
sur cette chanson.
Sur cette chanson, elle a 9 ans. Et je sais que Géraldine Nakache et Leila Bekti ont fait un gros truc là-dessus. Moi, je les adore. Je les trouve merveilleuses, ces filles. Et je trouve ça génial qu'elles aient fait un...
Le film s'appelle J'irai où tu iras.
J'irai où tu iras, ouais, elles ont fait. Je l'ai pas vu, mais j'ai vu la bande-annonce et je les aime tellement. Et je me suis dit, allez, on va leur faire un truc. Et puis, Céline Dion, je l'adore. Elle est québécoise. Et ça, son parcours est complètement fou.
Donc, ça vous renvoie quoi? L'image de maman aussi, c'est...
Maman s'appelait Céline. Elle, famille de 14 enfants. Et puis, là, ce que j'ai aimé dans cette chanson particulièrement...
Signé Goldman,
c'est qu'elle ne fait pas de la voix. Ouais. On sent tout ce qu'elle peut chanter et elle ne le fait pas. C'est la classe.
C'est pas la démonstration.
Jean-Jacques Goldman a dit il fallait que j'apprenne à Céline Dion à déchanter.
Absolument.
Pas partir dans la prouesse et dans le...
Mais vous vous rendez compte, vraiment, moi j'ai les poils. Hein. Et Dieu sait si j'en ai. Allez.
est-ce qu'on peut en parler?
Écoutez, je le dis, écoutez, ça suffit maintenant.
On en parle maintenant ou pas? 98, Zabou, vous reprenez votre nom, parce que jusqu'alors, vous vous y appelez simplement Zabou. Donc là, c'est Zabou Breitman.
Oui.
C'est à l'occasion d'une pièce de théâtre, La jeune fille et la mort d'Ariel Dorfman. Il y a une histoire très très jolie autour de cet événement, parce que votre propre père n'avait pas utilisé Breitman tout au long de sa carrière. Il avait gardé le nom de votre mère, Déré.
De sa mère, Jean-Claude Déré. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Ouais. Ça se faisait beaucoup quand on avait un nom à consonance juive. Donc il s'était dit, bon, allez. Et Jean-Claude Déré, même avant-guerre, évidemment. Ça n'a pas démarré en 1939, hein, les histoires. Ça démarrait bien avant. Donc il avait pris Jean-Claude Derain en se disant, c'est plus cool. Donc quand il jouait à la Rose Rouge ou à l'Alhambra, il avait pris ça quand il jouait avec toute la bande, Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, voilà. Et il est parti au Québec avec ce nom-là. Et en fait, il n'avait plus son nom. Et il était très heureux et à la fin, et tout à la fin, il mettait Jean-Claude Deray-Bretman.
Ouais.
Il était extrêmement heureux que je l'ai repris. Et Ariel Dorfman vient du même patelin que mon arrière-grand-père, Grégor Bretman, de Kichinev. Il venait de Kichinev en Moldavie. Donc c'est amusant, tout ça.
Qu'est-ce qui vous a décidé à reprendre votre nom en 98?
En 98, j'ai repris mon nom...
La Coupe du Monde.
Parce que la Coupe du Monde, déjà. Déjà, ça m'a fait un truc. j'ai toujours... d'abord, il me manquait parce qu'il n'y avait que Zabou.
Ouais.
Et c'était un nom... C'était... Bon, c'était...
C'est bizarre de garder juste un prénom, hein.
Je t'emmerde.
Mais c'est pas vraiment ça. C'est que 10 ans
plus tôt, c'est pas seulement ça, c'est que dix ans plus tôt,
quelqu'un m'avait dit ouais, toute façon, vous êtes intéressé par l'argent, ça m'étonne pas. C'est quoi de votre vrai nom déjà? Et là,
c'est un monsieur très connu,
oui,
qui est grand patron de radio.
Qui vous a dit ça?
Qui était Jean-Marie Cavada. Et donc, je m'étais dit mais merde.
Cavadaps.
Jean-Marie Cavadams. Et là, j'avais dit, c'est pas bien de me dire ça. Et j'avais dit, quoi, comment? Il m'a dit, ouais, je me comprends très bien. Alors, il m'avait dit, mais non, j'ai dit ça comme ça.
Mais c'est dingue.
Et, moi, ça, c'était mon grand-père, ça, c'était pas possible. Et ça m'est resté dans la tête.
Bah, un peu, oui.
Et dans le cœur.
Et dans la gorge.
Ouais. Et ouais, très longtemps. Et j'ai mis beaucoup de temps à le reprendre, et tout le monde me disait, mais reprends ton nom. Et je me disais, mais il faut que je le reprenne, ce nom. Et c'est Daniel Benoît. À l'occasion, il m'a dit, je serais tellement fier que tu reprennes ton nom. Parce que quelqu'un m'avait dit, bah oui, mais les gens, ils vont plus savoir que c'est toi. Bon. J'ai dit, bah, ils vont bien voir que c'est moi qui joue.
Et puis quoi encore?
Non, et puis Zabou,
j'adorais Zabou.
Il faut bien s'en douter que c'est la même personne.
Oui, c'est pas complètement con. Ouais.
C'est pas Zabou, la fille avec tous les poils sur scène?
Elle ressemble à Zabou, la fille qui s'appelle Zabou Bretman. Ça aurait été bizarre. Et donc, voilà l'histoire.
En 2015, vous écoutiez... Ouais, mais qui sait aussi mettre le frein à main et des choses.
Voilà.
Elle sait tout faire.
Oh là là là.
Elle sait tout faire.
C'est des voix exceptionnelles quand même. Exceptionnelles.
Alors, on pouvait passer Adèle, mais également l'enlèvement au sérail. Que vous avez mise en scène à l'Opéra Garnier. Alors, déjà. L'adresse doit faire quelque chose aussi, parce que l'Opéra Garnier, c'est quand
ça
même...
Ça fait comme ce que vous dites. Hein.
C'est ça.
Tous les jours, j'allais, je vais au bureau, et je regardais le truc énorme. Je me disais, je vais au bureau. Non, en fait, on a répété d'abord à Bastille, mais quand on a fini par répéter à Garnier, c'était du délire. J'allais sur la scène, je me disais, mais profite, regarde, d'être dans la salle vide. Non, mais c'est un truc de dingue.
Est-ce que ça vous mettait une espèce de poids supplémentaire sur les épaules d'être dans ce lieu mythique?
Ouais, mais en fait, je considère pas les trucs comme un poids, c'est plutôt un élan, ou un bonheur, ou un élan, une... Oh, chouette, quoi. C'est comme un énorme cadeau.
Clairement.
Et puis ça sous-tend aussi une forme de compréhension, parce qu'on a parlé de ça tout à l'heure avec Fédo. Là, vous savez lire la musique.
Ouais.
Vous n'êtes pas néophyte en la matière, donc ça c'est quand même une aide non négligeable quand on s'attaque à la mise en scène d'un opéra quand même un peu.
Mais je sais pas, c'est pas obligé, je pense. Il y a vraiment des gens qui.
Mais est-ce que c'est une aide supplémentaire par rapport à ceux qui maîtrisent pas la musique?
Je sais pas, je m'en rends pas compte. Il faut, je pense qu'il faut connaître bien ce que faisait Mozart. Mozart, quand même, c'est très populaire. On sait qu'il y a la coda sans arrêt, ça répète, parce que les mecs ils se barraient, ils allaient bouffer à l'extérieur, ils revenaient, donc ils avaient plus suivi bien l'histoire, donc on leur raconte.
Ouais, principe d'un refrain aussi.
Oui, ça sent. Puis de toute façon, ils étaient en famille, mais ça becquetait à l'extérieur. Hein. Ils revenaient, ça discutaillait, ça rigolait. Non, c'était pas du tout aussi sage qu'aujourd'hui. Et aussi, Mozart était facétieux, donc il déconnait sans arrêt. On a des écrits dans lesquels il raconte que Mozart tout à coup regardait le ténor, il se croisait les bras, il le regardait, il jouait pas. Ou alors il jouait un autre air. C'est-à-dire que quand même, il était dingue. Il était fou. Donc on a joué, moi j'ai joué avec ça, et Philippe Jourdan a été un chef extrêmement, extrêmement chouette. Quoi.
Violaine Hérault nous a rejoint. Bonjour Violaine.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de Georges Feydeau. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 3. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur Feydeau, dont un... appelé la machine, Feydeau, la machine à vertige, aux éditions Garnier. Nous parlons donc de cette dame chez Maxime. Comment d'abord définir la patte, le style, l'humour, Feydeau? Est-ce qu'il y a une manière de le définir?
C'est difficile de le définir rapidement, puisque Zabou Vretman, vous l'avez très bien dit, à différents niveaux. Mais d'abord, je pense qu'il y a quelque chose d'immédiat. Il y a quelque chose de très enfantin. Moi, quand j'étais enfant, j'ai découvert Fedot par des vieilles versions de la comédie française. Je comprenais pas tout, parce que, évidemment, tout ce qui était de l'ordre, de l'humour grivois, etc., moi, ça me passait un peu au-dessus à ce moment-là, mais je me bidonnais déjà. Et je pense que ça, c'est vraiment la première chose à percevoir. Mais par contre, c'est vrai que dès qu'on creuse un petit peu, on voit qu'en fait c'est extrêmement profond et qu'on creuse petit à petit, qu'on est au bord du gouffre en fait chez Fedot.
C'est un humour de situation, c'est un humour de jeu de mots. Et s'il y a des contrepéteries qui se glissent dans ces textes, quels sont les arcs dont il se sert?
Alors la situation, vous avez tout à fait raison. Et pour prendre l'exemple de la dame de chez Maxime, c'est une situation, un bon bourgeois médecin qui découvre d'un coup dans son lit un matin de gueule de bois qu'il y a une danseuse du Moulin Rouge.
Voilà. Sans savoir ce qui s'est passé la veille.
Sans savoir ce qui s'est passé. Et donc, cette femme passe pour sa femme légitime. Il faut qu'il se débrouille avec ça. Donc, c'est évidemment la situation.
Et c'est pas mon père.
Et allez donc, c'est pas mon père. Alors là, du coup, et allez donc, c'est pas mon père. C'est une formule que tout le monde connaît. Mais il n'y a pas de bon mot véritablement chez Fedot. Le mot, il vient de la situation. Par exemple, quand dans Un fil à la patte, vous avez un personnage qui sent mauvais et qui dit bah, « je m'en suis sorti », il voulait dire « comme j'ai pu », il dit « comme je pue bah », là évidemment, tout le monde rit, mais c'est pas un mot que vous allez sortir en disant bah, « Fedot a dit un jour, ça marche pas ». C'est pas Sacha Guitry. Sacha Guitry qui aime bien donner des grandes vérités sur la vie, sur le mariage.
Il n'y a pas de pensée ou des sentences comme ça qui peuvent être sorties de la pièce.
Il y en a quelques-unes, mais c'est vraiment rare, il faut les chercher.
Est-ce qu'on peut définir son humour sur l'époque où il a écrit, ou est-ce que son regard sur les femmes, sur le couple, sur la société, les bourgeois?
Alors oui, évidemment, c'est un homme de son temps, c'est la belle époque, donc on est vraiment à la charnière entre le 19e et le 20e. Et tout à l'heure, ça m'a fait plaisir de vous parler de Charles Cros, parce qu'on est vraiment aussi dans cet univers zutiste, hydropathe, absurde. Et évidemment, on sent qu'il est très perméable à tout ça. Ouais.
On dit que Charles Cros a inventé le gramophone, et Fedot, il a été très moderne. C'est le premier à avoir utilisé justement le gramophone, le téléphone sur scène. Il était très à l'affût des inventions, il les plaçait dans ses pièces.
Il adorait la technologie, puis surtout la technologie qui rate. Forcément, le phonographe enregistreur, il est là pour enregistrer quelque chose qu'il n'aurait jamais dû capter. Et donc, il s'amuse beaucoup avec le progrès. C'est du progrès, mais ça déraille.
Est-ce que les pièces ont eu du succès de son vivant?
Absolument. C'était vraiment quelqu'un très connu. Il a été le prince du rire, hein, c'est ainsi qu'on l'appelait. Et très vite, dès sa première pièce.
Ouais, je me disais.
ça fait plaisir de savoir qu'il a été reconnu, quoi, tout de suite, quand même.
Oui, il a été reconnu, mais en même temps, c'était quand même pas, il n'était pas reconnu comme un homme de lettres. Ouais. Il était reconnu comme un amuseur, un vaudevilliste, et il en a souffert, parce que on imaginait qu'en fait, c'était facile d'écrire des petites pièces comme ça pour le divertissement, pour faire rire. Et d'ailleurs, il était connu à l'égal d'autres dramaturges qu'on a perdu de vue aujourd'hui, totalement.
Mais vous savez, il y a Léa Drucker qui avait cherché dans la Pléiade, et il n'existe pas dans la Pléiade. Elle a dit, mais c'est épouvantable.
Elle était choquée,
ouais. Bien sûr.
Il était acteur, en fait. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas de rôle qu'on lui proposait qu'il s'est mis à écrire? Était-il un bon acteur?
Non, alors il a commencé à jouer ses propres pièces, en fait, qui étaient des petites scénettes, dans des cercles de jeunes artistes, donc il s'amusait beaucoup. Et il était très fort pour les imitations. Vraiment un bon imitateur. Mais, alors, apparemment, on lui aurait proposé un rôle, et puis il ne s'est pas rendu au rendez-vous, comme il était en retard. Et donc, il a dit, ça a décidé de ma carrière d'écrivain, parce qu'il était assez paresseux. Mais, en réalité... Je pense que ça, c'est quand même de la légende personnelle, parce que il y a des tas de brouillons dès qu'il est très jeune, dès l'âge de 12 ans, il noircit entièrement ce qu'il appelle des cahiers de drame. Donc c'est assez touchant, mais de voir que très jeune, il avait une vocation d'auteur, c'est très clair.
Il a dit, enfin on lui prête en tout cas cette phrase, vrai ou faux, vous allez nous le dire, la vie est courte, mais on s'ennuie tout de même. Pas très gay comme phrase.
Honnêtement, je sais pas s'il a dit ça, ou si c'est quelqu'un d'autre, ou si c'est pas une phrase un peu qu'on se passe comme
on
ça.
Lui prête.
Mais il était pas très, il était un peu noir. Tout à l'heure, vous l'avez parlé du gouffre. Il a fini sa vie dans des circonstances un peu terribles.
Triste. Il a eu la syphilis et donc il est mort dans un état de démence à la toute fin. Hein, donc au sanatorium de Rueil-Malmaison dont on parlait. Donc en effet, il y a eu voilà, c'était assez terrible pour quelqu'un qui s'était aussi passionné pour la médecine, qui en parle beaucoup dans ses pièces, et puis pour la folie dont vous parliez tout à l'heure, c'est très net. Et il en a été ensuite la victime. Et c'était un grand mélancolique.
Très grand.
Un mélancolique, un taiseux, c'est-à-dire qui était très spirituel en privé, mais dès qu'ils étaient plus de 3-4, ils ne disaient plus grand-chose.
Syphilis, ça veut dire qu'il avait une vie mouvementée, débridée ?
Apparemment.
Il peut suffire d'une fois.
Ouais, tu peux avoir un coup de malchance.
Apparemment, mais c'est vrai qu'apparemment,
non,
c'est
mais comme tout tourner autour des affaires de tromperie, ouais, de coucherie et autres.
Oui, mais ça veut rien dire. C'est peut-être aussi de l'analyse du regard. Non,
bien sûr.
J'ai glissé.
Ouais, bien sûr. Ses copains, où vous voyez des. Il paraît que c'est une histoire plus ou moins vraie, non, la dame ? Enfin, qu'il y avait un copain à lui à qui c'est arrivé, je sais pas quoi.
Oui, c'est plus ou moins vrai, oui. Pardon.
Non, mais c'était c'est un homme qui déjà l'adultère. Enfin, ça voulait quand même dire des choses aussi dans son. Dans son histoire personnelle, puisque il y a toujours eu des rumeurs sur sa paternité, hein, comme quoi il ne serait pas le fils de Ernest Feydeau, mais le fils peut-être de Napoléon III, peut-être du duc de Morny.
Ah oui,
donc c'est quelque
vrai.
Chose avec lequel il a vécu et qui est ressorti jusque dans ses dernières années où il se faisait pousser la barbiche pour vérifier s'il ne ressemblait pas à
Napoléon
III. Voilà. Mais bon, c'était aussi un thème de l'époque. C'est un homme qui avait beaucoup de succès visiblement parce qu'il était très beau, très séduisant, etc. Voilà.
Dans le Larousse, à l'article moustache,
ah oui,
c'est Feydeau qui a été dessiné avec une splendide moustache.
On parlait beaucoup de sa belle moustache.
D'accord. Il a quoi ? Il a fini seul, quasiment fou, ou c'est la syphilis, comme vous disiez, qui l'a rongé de l'intérieur, c'est ça ?
Oui, il a fini interné, hein, donc seul, pas vraiment, parce qu'il avait 4 enfants qui se sont bien occupés de lui, qu'il avait des amis. Et Sacha Guitry raconte qu'il allait le voir au sanatorium et qu'il était navré, et qu'il avait le cœur brisé de le voir dans cet état.
Quelles seraient pour vous les 3 pièces incontournables à voir pour apprécier Feydeau et son humour ?
La Dame de chez Maxime, c'est vraiment pour moi une de ses meilleures pièces, une des plus brillantes.
C'est le plus gros succès qu'il ait eu ?
Oui, c'est le plus gros succès. La Dame est partie en Amérique, etc. Grosse tournée de son vivant. Je citerai La Puce à l'oreille parce qu'en plus, on va la voir bientôt à la Comédie Française, qui est une pièce à sosie, qui joue sur des doubles. Et vous avez un personnage qui ne parle qu'avec les sons voyelles. Donc ça vaut le coup d'être rien que pour ça.
Et on c'est peut formidable. Imaginer que vu la troupe de la Comédie Française, ça va être formidable.
Je pense. Et je dirais On purge bébé, qui est un grand classique. Commande un sujet totalement scatologique, parce qu'on parle beaucoup de constipation, eh bien, on va faire une merveille de pièce.
Avec un pot de chambre.
Pas le fil à la pâte, alors.
Mais si, mais vous me dites 3, Nagui.
Bah oui.
Donc, moi, je veux bien tricher, je veux bien dire 3 plus 1.
Je m'attendais à ce que le fil à la pâte soit dedans.
Oui, bien sûr, un fil à la pâte pour ses courses poursuites et pour en avance.
Ne te promène donc pas toute nue.
Et vous voyez, c'est pas moi qui dis.
Okay. Merci Violaine Hérault. Je rappelle Feydeau, la machine à vertige aux éditions Garnier, maître de conférence à l'Université de Paris 3. Maître Tanguy nous a rejoint. Bonjour Tanguy.
Bonjour.
Il y a du rififi au modem.
Oui, Nagui,
ça fait vieux titre quand même.
En fait, comme je prends de l'âge, j'ai décidé de vous écrire les lancements les plus vieillots possibles, ainsi paraître super jeune à côté. Demain, je vous ferai dire c'est battre les amins. Alors, le modem, vous connaissez, hein, c'est le parti politique The Walking Dead. Il est mort vivant. Eh ben, il a une actualité, je vous rassure, ils n'ont rien fait, hein. C'est juste judiciaire.
On en parlera après les infos de midi. Je rappelle, Zabou Breitman est notre invité. Nous parlerons un peu plus aussi des Hirondelles de Kaboul, qui est au cinéma encore, et de cette dame de chez Maxime au théâtre de la Porte Saint-Martin. Bande originale avec Leïla Kadour-Boudali.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Ah bah bonjour.
Albert Algou.
Bonjour.
Jérémy Crépin.
Bonjour.
Tanguy Passion.
Bonjour à tous.
Et notre invité Zabou Breitman.
Bravo. Bravo.
Avec cette mise en scène réussie, mise en scène dingue, folle, drôle, intelligente, qui se passe au théâtre de la Porte Saint-Martin, la Dame de chez Maxime. Et il y a aussi ces Hirondelles de Kaboul, ce film que vous avez réalisé avec Eléa Gobé-Mévlec. Il y a Simon Abkarian, Zita Enro, Swan Arlo, Yam Abbas, Pascal Elbé, Michel Jonas, votre papa, dans ce film qui est un dessin
animé.
Ouais, on pourrait dire un dessin animé, un film d'animation, mais vous nous aviez déjà expliqué à l'époque votre manière de travailler. On le comprend mieux en plus quand on le voit, ce film. Les acteurs ont réellement joué comme s'ils étaient au théâtre,
ouais.
Ce qui a été ensuite dessiné.
Oui, ils étaient au théâtre ou au cinéma. C'est-à-dire qu'ils ont pu... D'abord, ils avaient leur texte. Ils savaient leur texte. Donc, ils ont interprété leur texte. Ils ont pu se parler l'un sur l'autre. Voilà. Et
tout, il fallait le vivre, quoi. Ouais,
voilà. Ils l'ont vécu et c'était animé. Et même, ils avaient les vêtements. Donc, ils avaient aussi des possibilités d'impro. Et je leur avais proposé d'éventuellement avoir des petites hésitations, de tout sauter, de se racler la gorge, parce que c'était ça qu'il fallait animer. C'est encore une fois animer l'imperfection, c'est-à-dire reproduire l'imperfection.
Alors il faut expliquer aux auditeurs que généralement c'est l'inverse. Le dessin est fait, et puis ensuite on projette ça sur un grand écran. Les comédiens viennent avec un casque ou pas et posent leur voix sur les dessins. C'est normalement l'inverse en fait.
Alors c'est normalement l'inverse. Souvent, après, il y a des gens peut-être qui procèdent de la même manière, mais pas avec cette direction d'acteur-là. Pour moi, c'était pareil que la direction d'acteur d'un film.
Ça, c'est le travail. Et puis après, il y a l'histoire. Il y a
le roman de Yasmina Kadra, voilà. Même, qui est
un best-seller.
Qui est un best-seller et qui est un roman qui est assez...
qui laisse pas indifférent.
Ah bah non. Avec une scène comme ça... on va dire, qui démarre toute cette histoire. C'est ce jeune homme, Mohsen, qui est joué par... ça y est, j'ai un trou. Qui est joué par Swann Harlow, et qui va au milieu d'une scène de lapidation, sans raison, sans réfléchir, va prendre aussi, milieu de la foule, au milieu de la... il va hurler avec les loups, quoi, et prendre ce caillou et le jeter, quoi. Et il se demande pourquoi il a fait ça et comment c'est possible qu'il ait pu faire une chose pareille. Et ça, c'est...
Zitanro, qui est celle qu'il aime, il lui avoue l'avoir fait et elle,
c'est une jeune femme. Ouais. Oui, bon, alors j'ai un petit peu triché avec le métier de Zunaira, qu'interprète Zita. J'en ai fait une dessinatrice. En fait, elle dessine, parce que j'aimais bien l'idée que le dessin puisse se dessiner lui-même. Voilà. Et donc, elle dessine aussi sa vie en fresque sur les murs, comme si, vous savez, c'est une dernière façon d'exister, une façon de résister aussi à la mort, une façon d'être vivante.
Et de se représenter elle aussi.
Bien sûr, alors c'est interdit.
Et de se représenter elle nue, alors qu'il faut qu'elle porte un voile et se cacher au contraire.
Voilà, c'est ça, c'est la liberté extrême. Et puis je trouvais
c'est réussi,
intéressant par rapport au travail d'Eléa.
C'est formidable, c'est émouvant, c'est bien joué, c'est réussi.
Les peintures, oui, c'est presque...
Elle réussit tout ce qu'elle touche, quoi. C'est énervant. Hein.
Non, mais il y a l'aquarelle animée. Non, mais le dessin d'Eléa est vraiment, c'est extrêmement beau aussi. Merci. Hein,
Des Hirondelles de Kaboul, encore au cinéma, et tant que c'est un succès, allez le voir, parce que c'est impressionnant sur un grand écran. Voici Tanguy Pastureau. Vous allez nous parler du MoDem, Tanguy, aujourd'hui.
Oui, le MoDem, c'est le parti de François Bayrou, le Béarnais aux mains calleuses qui en a tâté du pied de vache. Si sur Photoshop on mixait son corps usé avec la tête de Greta Thunberg, on obtiendrait Heidi à l'aube de la ménopause. Alors, je sais ce que vous dites, Nagui, parce que je commence à te cerner ma loute. Hein, vous vous dites, mais pourquoi Pastureau, qui parfois peut se révéler si brillant, choisit-il aussi mal ses sujets de chronique? Le MoDem, ça va être plus pénible qu'un dimanche pluvieux à Évreux. Dans les yeux de Zabou Bretman, qui me dévore, tout ça est tellement prévisible. Je lis l'angoisse de passer 5 minutes pleine à entendre parler du MoDem, car le MoDem sur le papier est le truc le moins enthousiasmant au monde. Même un livre de Christine Angot récité par Isabelle Huppert alors qu'elle fait une crise d'anémie, à côté, c'est fun. Il suffit de prononcer le mot MoDem pour que les gens pioncent. On ne le sait pas assez, mais dans l'histoire de La Belle au Bois Dormant, c'est au moment où un petit lapin sorti d'un fourré dit à la princesse « Oh purée, de carottes bien sûr, je suis un lapin. Tu sais quoi ma tasse-pé, je suis devenu centriste un jour, je vais voter Bayrou », que cette dernière a plongé dans le sommeil. Chez François Bayrou, les miroirs sont interdits parce que s'il se voit dedans, il s'endort pour 72 heures. Les ours n'hibernent pas naturellement, c'est juste qu'en octobre, il pense au MoDem et s'effondre avant de se réveiller 6 mois plus tard, comme Doc Gynéco, mais avec une crédibilité. Le plus gros concurrent de la mouche CC est le MoDem quand Frédéric Lopez a voulu emmener Bayrou dans la tribu des Fais la moi pas à l'envers. Ceux-ci se sont enfuis en hurlant « Non, c'est lui, le grand blanc qui fait dormir. Il va nous faire crever d'ennui et ce sera la fin de notre ethnie. » Oui, le MoDem c'est rébarbatif, comme disent tous ceux qui se refusent à employer le terme chiant qui est vulgaire. Parce que c'est le centre, et le centre c'est trop raisonnable. Si Jean-Luc Mélenchon était centriste, quand on l'empêche de pénétrer dans son local, il dirait zut, c'est contrariant parce que j'ai des dossiers en cours. Écoutez, ce n'est pas grave, je vais attendre dans le couloir en pensant à quelque chose de stimulant comme la directive européenne sur la longueur des balles à WC. Mais c'est un gauchiste fou. Alors la porte, il la défonce à coups de tête en hurlant « À moi, Louise Michel !» Ainsi, il arrive au pouvoir un jour, c'est la fin de Serrurier. Le centrisme, c'est plan-plan. Même Salvatore Adamo à l'heure du thé, vous lui filez un tract du modem, il vous dit « Non, c'est gentil, mais moi, politiquement, je préfère quand ça dépote. L'école Gérard Larcher, total déglingos, comme moi, tu vois. » Alors, je sais ce que vous allez me dire, Nagui, parce que je commence à vraiment te cerner, mon amour. Vous allez me dire « Mais Macron, en 2017, ne fut-il pas considéré comme centriste lors de son accession au pouvoir ?» Oui, je vous fais parler au passé simple, hein, pour que vous soyez encore plus en connexion avec le prof auditeur d'Inter. Hein, dans 30 secondes, je vais vous faire dire « J'adore Benoît Hamon hein. ». Mais vous avez tort, Macron n'a rien d'un centriste. C'est un ultra-libéral à la Madeleine, dans le corps d'un mec de boys band de pop coréenne qui serait fait débrider les yeux. Le centrisme, c'est Bayrou, c'est le modem.
Tanguy, j'adore Benoît Hamon.
Vous voyez, je tiens mes engagements. Hein. Mais restons sur le modem, parce qu'il a une actualité judiciaire, hein, une histoire d'emploi fictif. Alors certes, tout emploi au modem paraît fictif, hein, parce que ce parti marche aussi bien qu'un feu de la Saint-Jean réalisé avec des seaux d'eau. Hier, Marielle de Sarnez, l'unique adhérente du modem, son cerveau sera étudié à sa mort pour comprendre son fonctionnement atypique, a été entendue par la police anti-corruption, parce qu'il y a une dame qui se plaint d'avoir été pendant 10 ans employée par elle en tant qu'assistante parlementaire, alors qu'en fait, elle aurait eu une fonction de gouvernante. Hein, en gros, Sarnez aurait planqué tous ses dossiers sous son matelas à elle et lui aurait dit pour y accéder, il va falloir faire mon lit. Hein, elle a aussi coulé plus de 30 000 cafés. Georges Clooney en personne est venu lui remettre une capsule d'honneur en or. Alors attention, présomption d'innocence, ça c'est ce que dit cette dame. Hein, Marielle de Sarnez s'est expliquée hier, elle a parlé aux enquêteurs hein, du fonctionnement interne du modem. Leur corps, pour les protéger, les a alors plongés dans un coma artificiel. Elle en a profité pour partir et a fui la France. Elle vit désormais au Brésil. Elle se cache dans la forêt amazonienne. Il reste un ficus pour 40 Indiens plus elle, donc on devrait la trouver assez vite. Alors François Bayrou aussi a eu rendez-vous. Il s'est dit impatient d'être entendu. Tu m'étonnes. Ça fait des années que tout ce qu'il dit, tout le monde s'en tape. Hein, donc c'était son moment. Hein, il a chanté en espérant que les enquêteurs se retournent, a enchaîné par des claquettes, puis un numéro avec un phoque dressé qui a appris à dire « François est innocent, comme Tariq Ramadan et Dreyfus en son temps ». Et il va aussi se défendre. Parce que ce dont on soupçonne le modem, c'est d'avoir embauché des gens sur les fonds alloués par Bruxelles, mais pour faire tout autre chose. C'est comme si Laurence Bloch, directrice de France Inter, me demandait chaque matin de passer l'aspi dans son bureau sur ma pige d'intermittent. Bon, bah elle me l'a demandé, mais j'ai refusé. Hein, une divergence de point de vue, je voulais être nu avec juste un tablier de femme de chambre. Elle m'a dit « je préfère pas, autant un homme de mon âge comme Albert Algou, ça m'aurait tenté. Mais t'es un peu jeune comme moi, enfin bref. » Bref, soupçons de corruption, business, magouille et emploi fictif. Si jamais ils sont condamnés, enfin Nagui, le modem deviendra excitant.
Merci, Tony.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Allez, une interro concernant ce qui se passe dans notre monde en ce moment. Vous ne la verrez jamais dans On n'est pas couché, pardon. Ou dans Balance ton poste, ou Touche pas à mon poste, je ne sais plus. Je parle de qui?
Muriel Robin?
Non. Anne Hidalgo.
Exactement. Anne Hidalgo refuse d'aller dans Touche pas à mon poste, ou dans On n'est pas couché.
Parce qu'elle mettrait trop de temps à y aller en voiture, en fait.
Ça roule mal.
Est-ce que, il n'y a pas de parking à vélo.
Est-ce que vous choisissez, Zabou, les émissions que... Oui, vous choisissez les émissions que vous faites. Mais est-ce qu'il y a des émissions que vous refusez de faire?
Elle dit toujours oui.
Non, ouais, j'ai pas tellement. Non, j'ai pas. Il y a des émissions que j'ai pas très envie de. J'ai pas très envie de participer à.
Le meilleur pâtissier.
J'ai pas réussi à la.
Des chiffres et des lettres.
Ah non, meilleur pâtissier, je pourrais y être.
Et le casting, vous.
Quand vous dites oui, j'ai pas envie d'y aller. Ouais.
Ouais, j'ai pas envie d'y aller parfois parce que j'aime pas la manière dont les gens sont traités, reçus. Ouais, puis j'aime pas le niveau d'humour me plaît pas du tout. C'est pas mon truc en fait. C'est juste pas mon truc. Donc ça parfois.
On sait une émission en particulier.
Il y en a quelques-unes.
Quelques-unes, d'accord. Madonna vient de copier la bande originale. Comment? Ouais, regardez pas comme ça.
Copier la bande.
Elle m'a proposé un petit contrat, donc je pars demain.
Sorti un truc en lien avec les grandes dates de sa vie.
Alors je vais être honnête, elle copie la bande originale et elle copie Florence Foresti.
Elle a repris des sketchs.
Non.
Elle.
Florence Foresti
et la bande originale.
Ou la bande originale, oui. Décision qui a été prise par Jean-Baptiste Bussière à la fin d'été.
Le téléphone portable.
Exactement.
Ah, on oui, est privé de téléphone, Zabou, c'est comme ça.
Enfin, chez nous, ça n'a pas tenu longtemps.
Avait interdit. Non, alors, elle met en place un système.
Bah, génial.
Oui. Pour ne pas que les.
Pas trop bien.
Non, mais dans un
Hier soir, à la présentation, il y a quand même trois téléphones qui ont sonné.
Alors qu'il y a deux minutes d'annonce.
L'annonce qui est super, son annonce. C'est Jean qui l'a fait.
Mais comme Fédo adorait la technologie, on s'en fout.
C'est vrai. Ça peut même faire partie du spectacle. Non, mais juste, c'est pas dans la mise en scène.
Ça doit vous rendre dingue, ça.
Non, mais c'est insupportable. Mais ça perturbe tous les spectateurs qui étaient furax.
C'est un manque de respect.
Ouais, c'est insupportable.
Dans les concerts, autour d'elle. Il y a des petits sacs, en fait, qui empêchent.
Oui, mais enfin, imagine un concert, je sais pas, de 20 000, 30 000, 80 000 personnes, comment tu vas aller choper les 80 000 portables en disant je sais pas.
C'est Alexandre Benalla qui gère l'entrée, donc calme tout le monde.
Ça va. Qui va être la star de la Bibliothèque nationale de France pour les journées du patrimoine du 20 au 22 septembre?
Ribéry.
Non.
C'était leur suite.
Non.
BNF, ouais.
La star, c'est-à-dire
star, la vedette,
le parrain,
de connu de la littérature.
Homme, femme.
Oui, homme.
Homme.
Ah, français. Homme.
Orsena.
Personnage fictif. Personnage fictif.
Non.
Un personnage fictif.
San Antonio.
Non.
Un personnage
très
fictif.
Drôle, hein. Ouais.
De BD.
Star.
De roman.
Oui.
BD.
Oui.
Maigret. Spirou,
Tintin, non.
Pif,
Astérix.
Ah oui, Astérix, j'ai vu. Astérix, en effet. Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, Astérix, l'irréductible Gaulois, signé par Goscinny et Uderzo, va s'exposer à Bibliothèque nationale de France pour ses 60 ans. Albert Algout, t'aurais pu trouver ça, monsieur bande dessinée.
Bah, récemment, il y a eu Riyad Satouf qui a été honoré par la Bibliothèque nationale.
Ah, j'aime bien Riyad Satouf.
C'est vrai. Zabou, vous êtes pratiquement, enfin, vous êtes tous les soirs au théâtre de la Porte Saint-Martin. On a bien compris votre manière de fonctionner.
Non, la première semaine, là, j'y suis tout le temps. Et après, il y a quand même une assistante, la jolie Pénélope, qui va venir régulièrement, deux fois par semaine, resserrer la vis.
Léa Drucker, Michel Esco, Eric Pratt, André Marcon, Christophe Paou, Anne Roger, et des projets. Alors, de quoi seront faits les mois qui viennent?
Alors, il y a un spectacle pour tout public et jeune public, enfin tout public à partir de 6 ans, Thélonius et Lola, c'est un chien sans collier, voilà, sans papier en gros, qui veut chanter, et une petite fille qui va essayer de le sauver. C'est un texte de Serge Kribus. On monte ça à Amiens et un peu partout.
Du 14 au 18 octobre.
Ouais, et un peu partout. Il y a déjà 80 dates de tournée. On va jouer à MC 93. On va jouer, voilà.
Et le jeu, alors justement, l'actrice Zabou Breitman.
C'est moi.
Oui, mais quand? Pardon. Mais quand? Oui. Où?
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Faudrait que je reprenne la Compagnie des Spectres. Mais j'ai déjà joué, ça fait 10 ans que je le joue, mais j'aime bien le rejouer. J'ai les chocottes parce que c'est vraiment un gros spectacle avec beaucoup de mots et des mots difficiles.
Vous aimeriez être dirigé par quel réalisateur, par exemple?
Oh, bah plein, il y en a plein. En réal, il y a, je sais pas, Audiard, Clapiche, qu'est-ce qu'il y a, plein, mais je sais même pas. En fait, c'est le projet qui compte aussi, le projet évidemment, et le réalisateur ou la réalisatrice.
Ça vous est déjà arrivé d'écrire une lettre à un réalisateur ou de lui dire de visu, j'aimerais travailler avec vous?
Ouais, une fois dans ma vie, c'était Alain Resnais. C'est tout. Une fois dans ma vie, j'ai dit non. J'ai dit voilà. J'ai même pas dit j'aimerais travailler avec vous. J'ai dit je vous aime tellement. Il m'a pas fait travailler.
Et avez-vous reçu des lettres aussi, des demandes comme d'actrices, d'acteurs qui vous disent au théâtre par exemple, j'adorerais travailler avec vous.
C'est assez
émouvant.
C'est très touchant, ouais, extrêmement. Et de gens merveilleux qui me disent moi j'adorerais travailler avec toi. Donc c'est aussi pour ça que j'aime vraiment beaucoup les acteurs, quoi. Je suis très très bouleversée. Je trouve qu'il faut beaucoup de courage, énormément de courage, pour se livrer comme ça, pour être aussi précis et aussi d'être comme ça, un peu le pantalon en bas des pieds sur scène, parce que c'est ça, on n'est pas à poil, hein. C'est bien pire, on a la culotte en bas des pieds. Et c'est un truc, oh, la vache, quoi. Et pour marcher, c'est compliqué. Et tous les soirs, je me dis, ils sont courageux, ils sont merveilleux.
C'est peut-être ce manque de courage qui a fait que je n'ai jamais midi à Daniel Morin, j'adorerais travailler avec toi. Le voici Daniel.
Il y a beaucoup d'amour.
Tout ça,
il y a de l'amour derrière tout ça. Bah oui, pantalon sur les chevilles, vous pensez bien. Alors, paraît-il qu'hier, ici même, il y a un con qui a dit que la France allait se faire humilier.
Non.
en quart de finale face aux Américains en Coupe du Monde de basket.
Non.
Allez, dans 40 minutes à peu près, la France jouera en Chine son quart de finale de Coupe du Monde de basket. Les Bleus affrontent les États-Unis. Là, on parle basket, on parle équipe américaine, on parle victoire, on parle punition. Le sport aux États-Unis, c'est la guerre. L'adversaire est un ennemi, on se contente pas de le blesser, on le tue. Le culot. Le gars était jusqu'à imiter ma voix. Je reconnais quelques intonations. Bon, à mon avis, c'est Tanguy Pastureau. Enfin, bref, bref. Il s'est même moqué de ceux qui, à raison, faisaient preuve d'optimisme. Alors oui, je sais, j'en ai même entendu dire à propos de ce quart de finale à venir. Ah, mais l'équipe de France a des atouts à faire valoir, même face aux USA. Moi, je vous le dis, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Alors si, croyez-moi, on est très très à l'abri. Oui, je crois qu'on n'a jamais été autant à l'abri, hein, les amis.
Ah, le nez.
Quelle arrogance.
Quel nez.
L'arrogance.
Quelle analyse.
N'empêche que l'important, c'est que la France ait réalisé cet exploit, à savoir battre les Américains en basket. Moi, en tout cas, j'y ai toujours cru en cette possibilité. À propos de ce match, j'ai passé ma journée à dire, c'est ouvert.
C'est plié.
Oui, moi, arrête avec cette imitation insupportable, Tanguy, s'il te plaît. Alors, pour finir, j'ai cherché des réactions de soutien à l'équipe de France autour de cette table. Je n'ai rien trouvé, faut le dire. Alors, pour en revenir au sport, et comme je suis une pointure en pronostic, vous venez de le comprendre.
Mais dis qu'ils vont perdre encore.
Je peux vous dire que dans deux jours, au Parc des Princes, football, hein, je crois dur comme fer à une victoire écrasante de Paris face à Strasbourg. Non, arrêtez. Ça sent le 15-0 avec 9 buts de Neymar et 6 buts de Navas. Le nouveau gardien du PSG. Voilà. Alors, si vous êtes joueur, allez sur les sites de paris en ligne, style Winamax. Pariez beaucoup de pognon. Suivez mes conseils. Allez-y, les yeux fermés. Je ne me trompe jamais. À demain. Ah,
quel mauvais soir.
La bande originale avec Nagui.
Je laisse à l'appréciation de tes camarades de jeu l'amortissement de cette chronique qui a donc été doublement utilisée
en
droit d'auteur.
C'est le leçon, hein.
Ah, c'est la casse. Leïla, qu'as-tu retenu de la visite de Zabou Breitman? Pas uniquement de la dame de chez Maxime, mais parce qu'il y a aussi les hirondelles de Kaboul. Retenu de cette émission?
Que quand on a l'idée comme ça, qu'on a une forme de... Moi, je suis vraiment toujours très enthousiaste de voir tout ce que vous faites, Zabou, quel que soit le domaine. Non, mais c'est vrai, même à la présentation d'émission, à votre façon de penser les choses, de mettre en scène les gens, et je sais que vous les aimez vraiment, les comédiens, parce que vous les mettez vraiment en valeur et que vous êtes hyper généreuse, et que
malgré cette réputation de tortionnaire,
arrêtez d'imiter ma voix,
et que metteur en scène n'est pas metteur en scène qui veut, et que vous êtes une grande metteuse en scène.
Merci
Tanguy Pastureau, qu'avez-vous retenu?
Eh bien, j'ai retenu la déception, puisque mon idole Jean-Marie Cavada m'a déçu. Aujourd'hui, je l'ai vu 12 fois en live avec son groupe les Modem Fucking Boys, et je vais changer d'idole. Allez, donc toi, Taylor Swift.
Jérémy Crédville.
Moi, j'ai retenu qu'on avait un point commun, Zabou et moi, c'est que on nous appelle jamais pour tourner des films.
Moi, ce que je retiens, c'est que j'ai très 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 envie d'aller voir La Dame de chez Maxime.
Ah, mais tu vas adorer, Daniel Morin, un pronostic pour la carrière de Zabou?
Non, ça fout les jetons. Non, ben alors, Zabou Breitman a tous les talents. Comme quoi, il faut parier sur les femmes poilues.
Zabou, qu'aimeriez-vous entendre de la part de spectateurs qui sortent du théâtre de la Porte Saint-Martin La Dame de chez Maxime?
Je sais pas. Ça, je sais pas. Ça me terrorise, en fait. À partir du moment où j'ai fait le spectacle, je suis juste terrorisée, en fait. J'ai les oreilles qui font zzz, j'entends plus rien, j'ai l'impression que je vais défaillir. J'espère. Je pense beaucoup d'abord au théâtre, un théâtre qui vibre, qui rit et qui est plein, c'est génial. Et je pense évidemment au théâtre, je pense au directeur du théâtre, et je pense beaucoup aux acteurs, parce qu'une comédie sans personne qui rit, avec beaucoup de gens qui rient pas, c'est compliqué, quoi. Donc je leur souhaite d'être heureux, en fait.
Ça marche. C'est exactement ce qui nous est arrivé. Des excuses à présenter, Daniel.
Bien sûr. Désolé déjà pour Jean-Marie Cavada, dont le regard visionnaire, le sens de l'analyse et plus globalement l'élégance ont été pointés du doigt par Madame Zabou Breitman et Monsieur Nagui Femme. Eh oh, on est chez nous. Alors, je suis désolé pour les programmateurs de France Inter, désolé pour les auditeurs, fans de Vincent Delerme et autres chanteurs à voix. Bref, désolé pour tous ceux qui ont été choqués par notre défense de Céline Dion. Alors, comment vous dire ? Oh puis non, je dis rien, merde. Désolé pour les comédiennes, les comédiens et plus généralement les martyrs qui prochainement joueront sous les ordres du maréchal Zabou. C'est vrai que ça fait flipper, mais voilà.
Ça c'est pas vrai.
Je tenais à vous rassurer, méchant. Même en tant qu'invité, elle est méchante.
Merci Zabou, et encore bravo.
Merci,
bravo,
merci de votre accueil.
Demain c'est Avzia Herzi qui sera notre invité. Pardon pour le retard, Philippe Bertrand. Bon carnet campagne.
Ouais, merci, mais vu, merci. Vu la sécheresse, un fait d'eau, ça peut pas faire de mal.
Bon, c'est excellent. C'est moi qui arrose. Allez, salut, ciao.